Salut tout le monde, je suis plus que ravie de vous proposer ce podcast qui a pu voir le jour en collaboration avec Iron et Nike à l'occasion de la sortie de la Nike Invincible 3 et de la Sine Qua Non Run. La Sine Qua Non Run, c'est une course qui a vu le jour en 2018 pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles et plus globalement une association qui a la volonté de permettre aux femmes de se réapproprier l'espace public. Dans cet épisode, enregistré en live de la boutique Iron de la rue des Mathurins à Paris, on va se poser la question de savoir si, en tant que femme, on peut vraiment être libre dans notre pratique sportive, dans un environnement souvent hostile et propice aux remarques sexistes. C'était un moment génial et j'espère qu'on pourra se retrouver et se rencontrer sur d'autres événements comme celui-ci. Bonne écoute! Salut, c'est Cléo et bienvenue sur Championne du Monde, le podcast des femmes qui construisent le sport de demain. Alors, pas besoin d'être championne du monde pour passer ici. Toutes les deux semaines, on vous fait découvrir la voix de femmes qui incarnent le sport et font bouger les lignes. Athlètes, journalistes, médecins ou même ta mère, fan de Kevin Mayer, on part à la rencontre de nanas qui déchirent et surtout toujours plus badass que la plus badass de tes copines. Bonne écoute! Bienvenue, merci beaucoup d'être ici aujourd'hui. C'est une petite émotion parce que Championne du Monde existe depuis 4-5 ans et c'est une des premières fois qu'on enregistre un épisode en public. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Championne du Monde c'est un podcast sur les femmes dans le sport, on va dire globalement, grossièrement dans les femmes dans le sport. C'est un podcast qui met en valeur les femmes qui construisent et qui déconstruisent aussi les clichés sur le sport féminin. Et je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec trois superbes invités pour parler d'un sujet qui nous concerne toutes, j'ai envie de dire. Je ne pense pas m'avancer en disant qu'on a peut-être tout un jour eu peur le soir, après le travail, en allant courir, en entendant quelqu'un derrière nous ou en croisant un groupe de personnes sur notre chemin. Alors, ça peut paraître cliché, mais c'est une réalité, hein. Plus de 9 femmes sur 10 à travers le monde se disent inquiètes pour leur sécurité lorsqu'elles vont courir. Et une femme sur 2 appréhende d'être agressée physiquement lorsqu'elle s'adonne au running. Donc, ce sont des vraies données. C'est un constat, hein, qu'on peut faire. Et sauf que paradoxalement aussi, 70% des personnes qui pratiquent une activité physique le font pour des questions de bien-être et bien-être mental et physique et pour se sentir bien, pour se sentir libre. Donc, la question que l'on va aborder aujourd'hui avec mes trois invités, c'est vraiment est-ce que finalement, faire du sport et se sentir libre, c'est une réalité? Est-ce qu'on peut se sentir libre en faisant du sport? Alors, pour cela, je vais quand même présenter mes trois invités. Donc, j'accueille Mathilde Castres au milieu. Bonjour Mathilde, présidente et fondatrice de Sine Qua Non, une association qui utilise le sport pour booster l'empowerment des femmes et mobiliser chacune et chacun contre les violences sexistes et sexuelles. Bonjour Mathilde, est-ce que tu veux rajouter quelque chose à cette présentation?
Bonsoir, merci à tous et toutes d'être là. Merci Cléo pour la présentation. Oui, si j'ai quelque chose à ajouter, c'est que nous, notre terrain de jeu, c'est justement la rue. Et toutes les actions qu'on peut faire un peu maintenant partout et tous les jours en France, c'est d'utiliser le sport pour faire en sorte que les femmes se réapproprient la rue. Et c'est un véritable enjeu pour nous d'égalité femmes-hommes.
Ma deuxième invitée, c'est Lucille Woodward, coach sportive, s'il faut encore la présenter, et ambassadrice également Sine Qua Non. Bonjour Lucille.
Bonjour. Merci Cléo de m'avoir invitée et Mathilde aussi de m'avoir proposé de participer. Donc oui, moi je suis coach sportif depuis longtemps, plus de 15 ans. Je suis spécialisée finalement dans la remise en forme et la préparation à des défis sportifs pour des femmes. Et c'est vrai que les femmes ont déjà énormément de barrières pour se remettre en forme ou pour faire du sport. Souvent, c'est le temps, la charge mentale, les enfants. Enfin, voilà, il y a problème de légitimité, se sentir pas assez bien. Mais en plus, le fait d'avoir peur de se sentir soit agressé ou remarqué ou sifflé, c'est un frein supplémentaire qui m'insupporte. J'ai envie, moi, de pouvoir aller courir en forêt comme je veux, quand je veux. Et malgré tout, j'envoie quand même toujours un petit message à mon mari pour lui dire où je suis, pour qu'il puisse me suivre. Alors que lui, partent courir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, jamais ne m'envoient un suivi Strava pour que je sache où il est, quoi. Sauf vraiment quand il part loin en vélo, si jamais il crève. Mais ce n'est pas une question de sécurité pour lui.
Et enfin, notre troisième invité, Campanita, championne de France de breaking. Bravo. Et créatrice du projet Entre Big Girl. Bonjour, Campanita.
Bonjour. Merci beaucoup pour cette invitation. Et bon, moi, je vais parler depuis ma position en tant que femme et en tant et ma expérience personnelle dans un sport assez masculin. Et donc, ouais, effectivement, effectivement, tout ce qu'on dit, c'est quelque chose qu'on a vu tous les jours. C'est pas que je vais pas que les battles dimanche et dans ma vie, c'est tous les jours. Parce que en tant que femme, il faut se positionner à chaque fois. Il faut pas avoir peur, pas avoir ci, pas avoir ça. Mais on a l'espoir.
Et pas que. Justement,
on a un podcast aussi qu'on va bien partager.
Alors, on va peut-être pas révolutionner le monde avec un podcast, mais en tout cas, c'est déjà bien que ça ait lieu. Mathilde, ma première question, elle sera pour toi. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de Sine Qua Non ? Pourquoi justement, en lien aussi avec la thématique et la problématique que j'expliquais au début et que je posais au début.
Oui, alors la genèse est liée tout d'abord à mon histoire, moi, personnelle, puisque j'étais victime d'agressions sexuelles et j'étais confrontée à un nouveau sentiment que je ne connaissais pas, qui était la colère. Et cette colère était vraiment en train de me dévorer. Et alors moi, qui n'étais pas sportive, hein, à 37 ans, j'ai eu le réflexe de chausser des baskets. Et le sport m'a juste sauvée. Ça m'a fait passer en tout cas cette phase et cette colère. Et ça m'a permis d'être debout, d'avancer. Et puis c'est vrai que dans le running, en tout cas, on regarde de l'avant. Et ça a été vraiment pour moi justement un moyen de résilience. Et dans le même temps, moi, je m'étais lancée dans une procédure judiciaire assez longue. Et je me suis prise un peu sur en tout cas le virus, j'ai envie de dire, du running. Et j'ai commencé à participer à des courses, et notamment des courses un peu caritatives. Et là, j'ai réalisé que ce qui m'était arrivé, j'allais devoir vivre avec. Effectivement, j'étais devenue victime, mais que je pouvais surtout en faire quelque chose d'un peu plus grand. Et c'était juste avant MeToo. Et je commençais à en parler quand même pas mal autour de moi. Et là, je me suis aperçue qu'on avait été... Enfin, on est en tout cas nombreuses à avoir été confrontée de près ou de loin à cette problématique d'agression sexuelle ou sexiste, que ce soit dans l'univers professionnel, personnel ou sportif, et qu'on considérait que c'était la règle, puisqu'on vivait avec et qu'on n'en parlait pas. Et quand j'ai commencé à en parler, je me suis aperçue que beaucoup de gens étaient quand même révoltés de ça et souhaitaient en tout cas une autre société. Et c'est comme ça que j'ai eu envie d'utiliser le sport et la course en me disant... Le moyen, il est là, c'est de montrer qu'on est nombreux, en tout cas, à dire stop, à vouloir une autre société. Et j'ai voulu rassembler à travers une course, parce que c'est vrai que en participant en tout cas à des courses, on a vraiment cette énergie. Et je trouve qu'on partage ces foulées symboliquement. On avance vers une ligne d'arrivée qui est la construction, en tout cas, d'une société plus équitable. Donc, c'est comme ça que la Sine Qua Non Run est née. En 2018, où on a eu notre première édition, où Lucie nous a tout de suite rejoint en tant que marraine. Et à la suite de cette première édition, donc dès le début, moi, en commençant à courir, je me suis aperçue qu'il y avait certains moments de la journée où, justement, j'osais pas forcément aller courir seule, notamment le soir où je revoyais mon parcours, ou même des fois, ça m'arrivait de me dire « Non, mais je chausse pas mes baskets », alors que j'en avais besoin. Et dès le début, on a travaillé, en lançant cette Sine Qua Non Run, sur ces symboliques. On l'a fait à la nuit, ce moment où les femmes se sont davantage menacées, et sur un parcours de circuit à Paris, où on part place de Stalingrad dans le 19e, et on longe la Villette. Et c'est vrai que c'est la journée, autant c'est un parcours qui est extrêmement utilisé, mais à la nuit tombée, il est beaucoup moins fréquenté. Et quand on est une femme, clairement, on n'ose pas y aller. Donc, on a fait cette première édition sur ce parcours-là. Et là, dès le lendemain, moi, quelque chose que je n'avais pas du tout vu, on a été vraiment submergés de témoignages de femmes qui nous ont dit mais quel plaisir elles ont eu en tout cas de découvrir ce quartier, d'oser aller sur cet espace. Et il y a un témoignage moi qui m'a bouleversée, une femme qui m'a dit que voilà, elle avait été victime d'harcèlement lors de sa pratique de running et ça l'avait tellement choquée qu'elle avait décidé de plus courir. Et là, j'ai réalisé mais à quel point c'était un véritable sujet et que ça faisait partie du quotidien et que cette course, on l'a fait une fois, mais la problématique, elle est quotidienne et qu'il fallait en tout cas qu'on agisse de manière quotidienne. Et là, avec Lucille, on en a parlé. Et c'est comme ça qu'est née un peu toute notre histoire, en disant qu'il fallait qu'on trouve un moyen d'agir pour faire en sorte que toutes ces femmes qui n'osaient plus, qui avaient délaissé leur basket, alors comme tu le disais, c'est juste un élément qui nous fait tous du bien, osent retourner dans les rues et qu'il fallait vraiment les accompagner. Donc c'est comme ça qu'après toute l'aventure a commencé.
Je reviendrai après, mais c'est devenu plus global maintenant, sine qua non, parce que ce n'est plus que du running, hein. Ça s'est développé. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu aussi ce développement ?
Oui, alors au début, on s'est développé de manière très organique avec ces témoignages de femmes. On a lancé nos Sine qua non squad dans des quartiers où justement les femmes n'osaient pas aller courir seules le soir. Et on propose des sessions de 7 km mixtes. L'idée, pas du tout de stigmatiser les lieux, mais davantage les comportements. Et après, on s'est rapproché de sociologues, et notamment une sociologue qui est Dominique Pongy, qui elle a beaucoup travaillé sur cette problématique de la place de la femme dans l'espace public et qui a analysé le fait que la sportive s'octroyait davantage le droit à la ville, et notamment parce que en faisant du sport, et peut-être que tu pourras mieux aussi en parler, comme tu le disais, il y a une question aussi de posture où on prend l'espace, on a davantage confiance en soi et on occupe l'espace en faisant du sport. Donc c'est comme ça qu'on s'est dit, le sport peut être vraiment un super bel outil pour faire changer la société sur cette question où dans l'espace public, c'est extrêmement genré. C'est vrai que la femme, elle ne s'y installe pas, elle va souvent d'un point A à un point B, alors que les hommes occupe cet espace et que cette problématique était d'autant plus importante dans les espaces et les équipements sportifs urbains. Et là, on a cartographié les équipements sportifs et du coup les pratiques sportives où la problématique était la plus importante. Les city stades, où là, le taux d'occupation est de 95% par les hommes. Et quand on est une femme, franchement, c'est extrêmement dur d'y avoir accès. Les espaces de street workout, où là, on est à un taux d'occupation encore plus important. Donc on a lancé des dispositifs de la même façon où l'idée est vraiment d'accompagner les femmes sur ces espaces-là avec des coachs qui font des sessions. Et là, cette année, l'enjeu pour nous est de aussi lancer le même dispositif sur les espaces de skate, les skateparks et avec le breakdance. Donc c'est pour ça que je suis encore plus ravie de partager la parole ce soir avec toi.
Lucille, on le disait, tu es là depuis le premier jour, tu es là depuis les tout débuts. C'est une thématique qui t'a touchée. Est-ce que toi, en tant que coach sportif, est-ce que tu es souvent en contact justement avec des femmes qui ont ce type de problématique-là aussi ?
Oui, tout le temps. Ah, t'as pas peur d'aller courir la nuit toute seule ? Ah, mais moi, j'oserais jamais. Courir en short, c'est pas possible. Enfin, ce genre de messages, je les lis, je les entends tout le temps, en permanence. Même aussi dans les salles de sport, les endroits avec les poids libres de muscu, beaucoup de femmes n'osent même pas trop y aller. Alors, il y en a qui arrivent, mais bon, ça demande d'avoir une posture mentale très forte dès le départ. Et tout le monde ne l'a pas, surtout si on n'est peut-être pas forcément très à l'aise avec son corps tout de suite. Beaucoup se sentent regardées, elles se sentent peur d'être jugées aussi. Et c'est vrai, moi, maintenant, j'habite un peu plus loin, donc ça m'arrive moins, mais j'ai quand même eu énormément les sifflements de « Mademoiselle, je cours avec toi », quelqu'un qui dit « Ah, je cours avec vous », puis qui te suit sur 5-10 mètres. À chaque fois, et quand on le vit, quand on fait les Sine qua non squad dans les différents quartiers, c'est jamais une mauvaise intention de départ. On ne se sent pas forcément menacé. Mais par contre, c'est gênant, c'est lourd. Et en fait, ça nous rappelle en permanence au fait qu'à n'importe quel moment, on peut être une proie. On peut être un sujet d'agression. Et en fait, c'est ça. C'est pas que sur le moment, trois mecs qui nous applaudissent, qui nous sifflent, « Oh, les sportives !» tu vois, le genre de commentaire bien lourd.
Ouais.
Bon, c'est pas méchant. À chaque fois, quand on fait ces squads, quand on entend ce genre de comportement, nous, on s'arrête. On s'arrête, on dit bonjour, on explique voilà, qui on est cette association. Donc, c'est vraiment du porte-à-porte, tu vois, c'est du cas par cas.
C'est de la pédagogie.
C'est ça, c'est de la pédagogie vraiment de personne à personne. Et là, ils disent « Ah, mais il n'y a pas de problème, on adore, on vous regarde courir, c'est bien, on est content pour vous. » Et on leur dit « Oui, mais voilà, nous, en fait, ce que vous venez de faire là, ce comportement, ça nous agresse, ça nous fatigue, ça nous empêche en fait de nous sentir légitimes, libres, en paix dans notre pratique. Donc, s'il vous plaît, ignorez-nous. » Oh, d'accord. Enfin, voilà, ils sont un peu généralement interloqués, choqués souvent quand on leur parle. Donc, on parle à ces gens. Et ensuite, nous, entre nous, on se fait un peu un débrief de voilà, comment est-ce qu'il faut réagir ? Est-ce qu'il ne faut pas réagir ? Est-ce qu'il faut réagir ? Il faut avoir une posture mentale forte ? Comment est-ce qu'on la travaille ? C'est vraiment ça qu'on fait, en tout cas, en matière de course à pied dans les différents quartiers.
Différentes femmes avec qui tu travailles Elles t'ont déjà dit ces thématiques. Enfin, tu t'en parlais un tout petit peu au début d'ailleurs, que la famille, les enfants, le travail, tout ça les empêche aussi d'avoir une activité sportive. Est-ce que ça aussi, c'est un point par exemple qu'elles relèvent, le fait d'avoir peur ou de ne pas oser ou d'avoir peur d'être embêtée, de ne pas pouvoir faire leur pratique sportive comme elles le souhaitent?
Oui, oui, c'est en fait voilà, c'est plein de petits trucs qui font, qui t'empêchent un peu. Pas qui t'empêche, mais c'est des freins, en fait. Donc voilà, il y a ça, il y a les enfants, la charge mentale, souvent l'égalité homme-femme au foyer, hein, clairement. Enfin, il y a encore deux jours, une fille qui me dit ah, « j'ai deux enfants qui ont 1 et 3 ans, j'arrive pas à faire du sport et tout ». Et je lui dis bah, « parle-en au papa ». Elle me dit ah, « bah, le papa, lui, par exemple, il pète tous ses records en ce moment. Donc voilà, lui, il fait plein de sport et elle pas ». Donc c'est fou. Donc c'est encore aussi très présent. Et voilà, il y a aussi en effet ce côté « j'ai peur, je ne sais pas quel parcours faire dans lequel je me sens en sécurité ». J'ai pas envie de croiser machin. Voilà, je sais quel genre de personne je vais croiser à cette heure-là. J'ai pas envie qu'ils me voient en leggings ou en short parce qu'il fait chaud. Donc voilà, il y a aussi cette problématique de l'habillement. Parce qu'en fait, les mecs, quand ils partent courir, bah, ils regardent le temps qu'il fait, ils s'habillent en fonction et ils regardent si leur montre est chargée. Et les femmes, c'est quel temps il fait, faut que je me mette en short, il fait grave chaud, ouais, mais je peux pas, j'ose pas, donc je mets quand même un legging, je vais quand même avoir super chaud, mais c'est pas grave. Enfin, et donc en fait, tout ça, c'est plein de petits freins qu'on a besoin de faire sauter.
Short, la brassière.
Le short, la brassière, bien sûr. Enfin, je veux dire,
c'est quand même l'équipement le plus confortable, hein, disons les choses. Hein.
Tu vois, quand, par exemple, sur les crosses, moi j'étais, parce que mon fils fait du cross là, donc j'étais sur les crosses, les championnes de cross, elles sont en maillot de bain, hein, en plein hiver, tu vois, parce que le corps, il a besoin de se refroidir. Et donc, tu as des femmes qui, quand il fait 25 degrés, elles sont en leggings, t-shirt à manches, tu vois, donc c'est pas optimal.
Campanita, on parlait, donc on disait l'espace public hein, est globalement hostile pour les femmes et encore plus quand on parle d'infrastructures sportives. Je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure. Je lisais un article justement qui disait que les équipements sportifs en libre accès, comme on l'a dit, les city stades, les terrains de basket ou les skate parks sont occupés entre 85% et 99% par des hommes. C'est juste énorme. Hein. Adriana, toi tu pratiques un sport qui est né dans la rue. Est-ce que personnellement, tu as eu la sensation en tant que femme de devoir faire 1000 fois plus d'efforts pour prendre ta place?
Absolument. Moi, quand j'ai appris le break, j'ai appris en Venezuela. C'est pour ça mon accent. Je ne suis pas française. Et j'ai appris le break en Venezuela et j'ai appris dans un grand, super grand espace. Il y avait, c'était rempli de garçons. Donc, trouver sa place, c'était compliqué. Parler sa vie. Il faut faire attention, il faut faire gaffe à comment tu t'habilles en fait, parce qu'il y a un petit t-shirt court, ça peut faire un petit rappel à quelque chose. Donc, sinon aussi, l'effet d'être la nouvelle, tout le monde te saute dessus parce que tu es la nouvelle. Donc pas parfaitement pour t'apprendre, c'est plutôt pour s'approcher à toi en tant que proie. Et ça n'arrive pas que dans des espaces publics, ça arrive tout le temps. Et en vrai, des vrais, pour être bien honnête. Et après, quand j'ai appris, j'ai un peu, on va dire, pris ma place et me dire, OK, il faut que je me défende, il faut que je sois forte, il faut que j'aille en état mental avant pour pouvoir me faire respecter, en fait, parce que j'ai envie de faire ça sérieuse. C'est pas parce que je suis une fille que c'est pas sérieuse, non? Et donc, à force de faire ça, après, la problématique, c'était dans la confrontation. Donc, tu peux pas être plus fort que moi parce que tu es une fille. Donc, tout le temps, tu sens ce message de « tu peux pas être plus forte, c'est mort, c'est impossible, en fait. T'as douté, c'est mort. » Non. Donc, tout le temps, ça arrive encore aujourd'hui dans des choses, par exemple, il y a des garçons qui poussent faire des actions, des signaux qu'ils ont fait dans des battles de break, ils font des signes, whatever. Mais quand c'est toi qui le fais, parce que j'ai pris un positionnement de dire, OK, bah, si je le fais, bah, je suis valide aussi, en fait. Si tu me fais ça comme question, attends la réponse. Enfin, attends ma réponse. Donc, j'ai beaucoup, dernièrement, j'ai beaucoup eu des discussions avec des garçons en mode, non, mais tu n'as pas le droit de faire ça. Et toi? Ouais. Du coup, c'est qui te donne à toi le droit et à moi, c'est qui me le quitte, en fait? Pourquoi?
Et
c'est quoi le problème?
Moi, j'ai une question. Est-ce que pour toi, c'est la même sensation en France ou au Venezuela ou peut-être dans d'autres pays où tu vas te produire? Ou est-ce qu'en France, c'est différent?
En fait, c'est la même chose. Et en Venezuela, c'était pareil. D'ailleurs, en vrai de vrai, quand j'ai découvert ce truc de la violence sexuelle, on va dire, ici, en France, pas parce qu'ici, ça arrive plus que là-bas, c'est parce qu'ici, j'ai compris, ah, en fait, c'est un abus. En fait, c'est quelqu'un qui est en train d'utiliser son pouvoir d'homme pour te blesser. Là-bas, pour moi, c'était le jour à jour. En fait, il faut lutter. Enfin, ton jour à jour, il est dans l'ensemble, pas qu'en tant que femme, sinon en tant qu'individu, parce que le pays, il est pas, c'est pas la fête, on va dire. Donc, ça faisait partie de le jour à jour, on va dire. Donc, c'est pas que c'est plus ici que là-bas, c'est pareil. Juste que là-bas, j'étais pas consciente de que c'était un abus, en fait. Parce que si je te décris une scène, quand j'ai commencé à faire du break, je le disais à ma pote aujourd'hui, j'étais en train de faire un équilibre dans ce mur. Il y a un copain, enfin aujourd'hui, c'est une personne égale à moi, on va dire. Il se pose à côté de moi, il crache par terre. Ça, c'est pas pour les filles. Comme ça. Tous les jours, des choses comme ça. Donc, pour moi, c'était la façon à où de faire qu'on devient forte. C'était pas un avou. Tu vois, c'était jusqu'à que je me suis rendu compte que tu n'as pas besoin de faire ça pour me faire plus forte. D'ailleurs, je suis plus forte que toi. Je veux bien te fumer. Donc, tu vois, c'est en fait dans la société aujourd'hui, je pense que depuis beaucoup de temps, on va dire, et on est codifié à que les femmes, ils doivent être ça et les garçons, ils doivent être c'est autre chose. Alors qu'il y a beaucoup de garçons qui sont beaucoup plus afféminés que moi dans mon quotidien. Il y a beaucoup de filles. Moi, je me considère une fille beaucoup plus masculine. Ça, ça ne veut pas dire que je suis un homme. Mais ça veut dire que j'ai cette énergie plus puissante, on va dire. Donc, mais la société, elle te dit que tu es une femme. Elle est où ton maquillage? Elle est où ta jupe? Pourquoi tu n'es pas belle aujourd'hui? Alors que en vrai, on fait ce qu'on veut, quoi. C'est ta vie, ça t'appartient, tu vois. Mais c'est compliqué de faire comprendre tout ça.
Moi, j'ai une question aussi. Pourquoi, à un moment donné, t'as pas eu envie de laisser tomber, de lâcher, de dire, OK, j'en ai marre. C'est une lutte de tous les jours. J'arrête le breaking ou je fais autre chose ou j'en sais rien.
J'ai eu plusieurs moments de me dire, ça y est, j'arrête. Je ne peux plus, en fait. Enfin, toute seule, c'est impossible. Mais dans le chemin, j'ai croisé aussi des femmes super fortes, comme vous, par exemple, qui m'ont inspirée à que si on ne le fait pas, qui va le faire pour nous? Tu vois? Si on n'ose pas à y aller, qui va changer la chose? Donc, si je me posais cette question plusieurs fois, de me dire, c'est bon, j'arrête, parce que j'ai été victime sexuelle, des b-boys renommés de mon pays où je n'ai jamais pu dire son nom dans la communauté parce que c'est quelqu'un de reconnu. Donc tout est plus petit. J'ai eu plein de moments où j'ai dit, je ne peux plus retourner, en fait, je ne peux plus. Mais je suis super amoureuse. de l'art qui me laisse être libre, en fait, qui me laisse être moi-même et qui me fait sentir mon propre pouvoir. Et de doute, j'ai croisé beaucoup, beaucoup de femmes qui m'ont inspirée à on ne lâche rien, on y va.
Tu as créé aussi un projet qui s'appelle Entre Big Girls. C'était aussi justement un moyen pour toi de te réapproprier cette pratique-là et de créer une sorte de safe space un peu.
Oui, mais au-delà de safe space, je voulais savoir à ce moment-là, quand j'ai créé Entre Big Girls, ça c'est né en Covid et j'ai passé pour toute l'Amérique du Sud en voyage. Donc, je connais presque toutes les communautés hip-hop de l'Amérique du Sud. Donc, je me suis rendu compte que beaucoup, beaucoup de femmes, on avait le même souci. Enfin, on était tous dans le même problème. Des abus sexuels, des abus psychologiques, plein de choses par rapport à la relation homme-femme. Donc, j'ai créé, au-delà de créer un espace safe, j'avais envie de savoir, mais qu'est-ce qu'on fait devant ce problème? Le problème, il existe. On sait tous déjà, hommes et femmes, que le problème, il est là. Qu'est-ce qu'on fait avec? Enfin, c'est quoi, c'est comment qu'on procède en fait. Donc, j'ai fait trois éditions. La première édition, c'était interviewer tous les billets de l'Amérique du Sud, parce que je parlais espagnol. Bah, à l'époque, je parlais beaucoup plus espagnol que français, on va dire. Et j'ai interviewé les billets pour savoir comment ils se sont positionnés dans leur espace en fait. Parce que justement, je sais que c'est compliqué de se positionner. Et du coup, j'ai trouvé plusieurs témoignages. Donc, il y a des témoignages où c'était très difficile. Il y a des témoignages où je ne me sens pas concernée de quoi tu parles, en fait. Moi, j'avais un crew qui me protégeait. Enfin, je ne comprends rien de ce que tu es en train de dire, Campanita. Je n'étais pas abusée, en fait. Je ne vois pas pourquoi tu te plantes, en fait. Et donc, ça m'a fait dire, OK, j'ai besoin d'aller plus au-delà parce que j'ai l'éducat. Ça veut dire qu'il y a des femmes qui se sont concernées, il y a des femmes qui simplement ne se sont pas concernées avec la même problématique. Donc, j'ai créé la deuxième édition pour interviewer des bigères en Europe, pour savoir, elles, ici, comment ça se passe. En fait, qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi? Enfin, on est tous différents. J'ai envie de savoir encore plus. Donc, ici, je me suis rendu compte que les filles, elles sont dans une position de... Je pense qu'ils ne se rendent pas compte que...
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
C'est un abus, du coup. Et ce truc de... Bon, t'es obligé à te mettre un t-shirt court pour faire ton petite performance parce que t'es un bigger. T'es pas... Enfin, un b-boy, il a le droit de s'habiller large. Toi, non, t'es une femme. Il faut qu'on va amputer ta féminité. Mais qui, enfin, c'est qui toi pour me dire que je dois te montrer ma féminité? Je veux ma féminité, elle m'appartient à moi. Et je la montre comme je veux. Donc, tout ça, on l'avait discuté dans, la deuxième édition. Et la troisième édition, j'ai invité des professionnels psychologues, gynécologistes, nutritionnistes et journalistes pour pouvoir aborder la problématique. Donc, il y avait la problématique psychologie de qu'on ne se rend pas compte que te dire. Montre ta féminité, c'est un genre de violence, en fait, parce que tu me pousses à faire quelque chose à ton regard, d'accord? À comment toi, tu décris le concept féminité, ce que c'est pour toi, pas pour moi, pour toi. Donc, on a abordé avec les psychologues ce sujet-là, avec le nutritionniste aussi, parce qu'on n'a pas le même corps. Donc, des fois, les bibos, ils viennent, « Ah si, mais viens, je t'aide à monter ta jambe. » Et tu es là en mode, « Tu ne l'as pas pris la jambe à ton pote. Pourquoi tu me la prends à moi ?» Donc, on n'a pas le même corps, mais ils sont convaincus, on dit comme ça, ils sont convaincus qu'ils sont la science exacte de ton corps. Ton corps, il ne t'appartient pas, en fait. C'est comme, on ne te fait pas connaître ton toi. On te dit juste sur le concept de la société, qui tu es et quoi tu devrais faire et comment tu devrais le faire. Alors que non, ça ne se fait pas comme ça. Donc, nutritionniste, pareil, et coach sportif, on avait un coach sportif aussi pour qu'il nous dise enfin, notre corps, nous reconnaître. Imagine, pour moi, dans la gynécologiste aussi, enfin, savoir entraîner tous les jours, le break en tout cas, ce que je fais, c'est un sport bien physique. Donc, il y a moi, personnellement, ma menstruation, il me casse les cacahuètes une semaine, au moins. Au moins une semaine de douleur, des trucs gonflés, nanana, j'ai envie de manger tout. Enfin, c'est un truc. Mais je l'ai compris toute seule. À l'école, personne ne m'a dit, il faut que tu saches ton corps. Dans pas longtemps, tu vas être un... Tu vois, personne ne m'a dit comment reconnaître mon corps. Donc, avec la gynécologiste, on a abordé le thème que tous les billards qui étaient là, tout le monde était comme ça. Ah oui, il faut faire comme si, il faut faire... Personne n'a cette information parce qu'on les minimise. C'est comme si on n'existait pas, alors que c'est nous qui vous ramène à la vie. C'est ouf.
Je rebondis sur ce que tu dis, mais est-ce que vous trouvez globalement qu'il y a un manque de pédagogie aussi sur ces sujets-là ?
Ah oui, énorme. Par exemple, la majorité des études sur le sport ne sont faites qu'avec des hommes. 71% des études autour de la physiologie du sport ne sont faites qu'avec des hommes en sujet. La plupart du temps, quand c'est mixte, le cycle hormonal féminin n'est jamais pris en compte, en fait. C'est ultra rare. Ça commence un tout petit peu à être étudié, mais vraiment de façon vraiment épisodique. Alors qu'en réalité, on commence à comprendre que le cycle hormonal, si tu ne prends pas de pilule contraceptive, le cycle hormonal naturel de la femme est favorable en fonction en fait, de quand tu en es dans ton cycle, à faire de la muscu ou de l'explosivité en début de cycle, et après, plutôt en fin de cycle, de l'endurance et du fondamental. Donc, tout ça, c'est encore très peu connu. Par exemple aussi, l'alimentation qui favorise la diminution des syndromes prémenstruels dont tu parles. Enfin, tu vois, il y a plein d'aliments qui peuvent énormément aider. Et après aussi, certains compléments alimentaires pendant quelques mois qui peuvent remettre un peu tout en état. Donc oui, c'est encore très, très peu connu. Et on minimise aussi, en effet, tout ça avec le sport. Et on parle juste de prendre des muscles, récupérer, machin. Mais finalement, le faire pour les femmes, c'est hyper important. Les oméga 3, par exemple, aussi, pour justement rééquilibrer les œstrogènes, progestérone. Donc voilà, tout ça, c'est encore très, très peu connu.
Est-ce que je reprends aussi, quand tu parlais de la deuxième séquence que tu as faite, tu disais en France, finalement, elle disait, bah oui, mais bon, c'est comme ça. Est-ce qu'il n'y a finalement aussi pas une sorte de normalisation de la violence, des agressions qu'on peut subir, et finalement en fait maintenant, et enfin moi la première quand je vais courir et qu'il y a quelqu'un qui nous siffle, tu dis oui bon bah en fait c'est normal quoi, enfin voilà.
Oui bah la problématique c'est qu'on les a intégrés et qu'on depuis qu'on est petite on a été éduqués comme ça. Moi le nombre de fois où comme tu disais le réflexe de se dire je préviens mon mari, c'est parce que quand on est petit on a entendu t'es une fille tu vas pas seule aller dans la rue courir.
T'as besoin d'être protégée.
Oui et c'est comment là collectivement on change le récit puisque c'est pas à la femme de se dire je vais culpabiliser et le nombre de fois même quand une femme se fait agresser dans sa pratique de running, on lui dit elle a été seule, pourquoi est-ce qu'elle va courir seule le soir
en mini-short
c'est ça. Et c'est refaire culpabiliser la femme alors que collectivement il faut justement changer ce récit-là pour faire en sorte de créer ces safe places et de se dire que la femme a toute sa place dans cet espace public au même titre qu'un homme.
Ah, je voulais juste dire que justement pour partager ce point-là. Mon dernière édition, on va dire, d'Entre Vigueurs, ça s'appelle « Viens, on en parle ». Et justement, pour moi, le cible, il n'était plus sur les femmes directement, sinon sur tout le monde, en fait. Parce que je pense qu'on a besoin d'être éduqués. Là, ça ne me surprend pas les garçons qui disent « Non, c'était pour donner la force. Je te siffle parce que tu es belle et pour te donner la force. » Donc, on a tous et le besoin de décodifier et recodifier ou reconceptualiser justement la chose, en fait. Donc, pour moi, c'est important d'éduquer ça à la haine parce que j'ai passé par ce procès de... J'ai envie de
vouloir casser des figures.
Oui, parce que ça fait la haine, en fait, que tout le temps, tout le temps, il y a un petit truc. Enfin, il n'y a pas un jour où tu peux sortir tranquille et dire, ouais, je rentre safe, sans problème. Non, j'ai jamais, je crois, ou un jour où je me suis tranquille. Bah, peut-être quand j'étais super petite, mais je ne me rappelle pas. donc, je pense que l'éducation, c'est pas normal. La violence, elle n'est pas normale pour tout le monde, hein, parce que ce n'est pas normal qu'on te dise quoi faire parce que tu as un corps spécifique. Donc, c'est important d'éduquer, je pense. La pédagogie.
Tu voulais rebondir ?
Oui, moi, je voulais rebondir. En fait, on a aussi besoin de beaucoup d'hommes qui viennent partager en fait, ce combat ou cette éducation, cette pédagogie. Je me rappelle, c'était, je ne sais plus, peut-être septembre dernier, on était dans le 93 vers Saint-Denis. Et donc voilà, on courait, après on s'arrête, on fait des fentes, des squats. Et c'était un jardin et bon, il y avait vraiment un groupe d'hommes qui mettaient de la musique hyper fort. Et voilà, volontairement, on s'est arrêté là et on a fait nos exos, nos gammes, nos montées de genoux. Là, hein. Et en fait, ça s'est hyper bien passé. Donc ces personnes nous ont totalement ignorés en fait. Et du coup, à la fin, je suis allée les voir en leur disant bah, « c'était vraiment trop cool que vous nous ayez ignorés ». Ils ont dit « ah oui, non, mais il n'y a pas de souci ».
Ça fait plaisir.
Ah oui, non, mais justement, je leur ai dit « ça fait plaisir, c'était hyper agréable ». Du coup, enfin voilà, et donc on expliquait ce que c'est que notre association et ils trouvaient que c'était super bien. Et en réalité, on a vraiment besoin d'avoir des hommes charismatiques qui sont connus, des chanteurs, des acteurs, des footballeurs, qui viennent en fait dans cette pédagogie et ces combats-là s'exprimer publiquement. Alors il y en a encore beaucoup trop peu pour dire que voilà, c'est normal de ne pas remarquer une femme qui fait du sport ou une femme dans l'espace public et vraiment d'incarner finalement cette masculinité d'égal à égal. Et on en a encore pas ou très peu, ou alors je les connais pas, je les ai pas encore rencontrés, mais ou peut-être qu'ils ont peur, n'osent pas se mouiller sur ce sujet. Alors que c'est vraiment un sujet qui ne peut pas se faire tout seul. En fait, on ne peut pas le traiter qu'entre femmes, puisque de toute façon, c'est un problème de vivre ensemble. Donc, on ne peut pas le traiter que d'un seul côté. En fait, il faut le traiter ensemble, entre hommes, entre femmes. On en parle. Qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas OK. Voilà, on peut aussi essayer de trouver. Parce que du coup, après, parfois, les hommes disent « Ah oui, mais alors du coup, on ne peut plus rien dire » ou les trucs comme ça. Donc voilà, après, bah, on peut s'en parler. Qu'est-ce qui est OK, qu'est-ce qui n'est pas OK. Et finalement, en effet, trouver un nouveau chemin parce que ça n'existe pas. Donc, on a besoin de créer quelque chose ensemble.
Justement, moi, c'est ma question et c'est la grande question. Mais comment faire ? Que faire ? Parce que tu le disais, vous, quand vous partez sur les sine qua non squad, vous vous arrêtez, vous faites de la pédagogie. Si toutes les femmes qui vont courir à un moment donné, qui se prennent une réflexion, s'arrêtent, alors déjà, elles vont pas trop courir, malheureusement. Elles vont beaucoup s'arrêter dans leur run. Donc, comment faire ? Quelles sont potentiellement des bribes de solutions ?
Bah, je pense déjà, il y a effectivement l'action et ce que l'on met en place. Après, c'est bah, l'ensemble de la société civile doit avancer. Je pense que ce genre de talk permet aussi d'en parler. La médiatisation, enfin, c'est tout le travail aussi qu'on fait à travers nos actions ou la run qu'on va faire samedi. C'est par ça comment on peut faire émerger ce sujet-là médiatiquement. Donc, toi, t'en parles dans ton podcast. Je pense que collectivement, la plupart des gens n'ont même pas conscience tellement qu'on l'a intériorisé. Et il faut faire émerger ce sujet. Il faut qu'il soit pris en compte par les institutions publiques. Et on sent quand même qu'il y a du changement, que là, Paris 2024 et tout ce qui se fait a permis de faire émerger en tout cas ce sujet-là. De plus en plus de médias le portent. Et c'est aussi comme ça qu'on va faire avancer les choses.
Est-ce qu'au niveau des infrastructures urbaines aussi, parce qu'on disait c'est un vrai problème, hein, qui sont complètement monopolisées par les hommes, il n'y a pas peut-être à réfléchir différemment peut-être ces infrastructures-là pour qu'elles soient plus inclusives, j'ai envie de dire.
Bah, elles le sont, hein, de fait, un city-stade.
C'est pour tout le monde. Mais...
voilà, il n'y a pas des city-stades hommes ou des city-stades femmes. Après, c'est bah, nous ce qu'on fait sur le foot, c'est aussi en lien avec les collectivités. Donc, on a concrètement, on a des créneaux dédiés parce que c'est difficile quand on est une femme de rentrer dans ces sites. Donc, on est obligé de passer par des créneaux dédiés. Je sais, au début, moi, ça m'avait... J'ai beaucoup aussi changé. Ouais, bah, alors, au début, ça ne l'était pas. Et du coup, on a dû faire appel à des agents de la ville pour nous libérer les créneaux. Et dans certains arrondissements, il y a des fois où les sessions se passent encore mal. Et là, pendant une heure et demie, bah, grâce aussi aux coachs qu'on a vraiment formés sur ces sujets-là, les filles ont l'habitude, prennent l'espace, prennent du plaisir, occupent aussi cet espace. Et la dernière demi-heure, on leur demande si elles veulent jouer en mixité. Et c'est là aussi que la magie s'opère, c'est qu'on ouvre et puis bah, les garçons qui sont un peu énervés rentrent sur le terrain et grâce au jeu, on leur montre aussi qu'on peut partager le terrain. Mais on est obligé de passer en tout cas par cette phase de non-mixité pour après aller vers la mixité. Parce que sinon, toutes seules, elles n'oseront pas. Elles n'oseront pas. Alors, ça dépend vraiment des pratiques. C'est vrai que le foot, c'est, sur les cities, c'est vraiment particulier. Le running, on est plus dans un travail de mixité. Les espaces de street workout, quand le taux d'occupation est vraiment trop important par les hommes, on est obligé de passer par cette non-mixité pour après aller vers la mixité.
Toi, comme Panita, est-ce que tu as envie aussi de continuer cette lutte-là ? C'est quelque chose...
Oui, tous les jours, tout le temps, même quand je dors, je rêve. Et oui, je pense qu'il ne faut pas lâcher parce que... alors, moi maintenant, je le prends un peu plus avec un recul justement parce que j'avoue que ça m'a touché et que ça, c'était vraiment quelque chose qui me prenait à cœur, surtout quand ça arrive dans le break. Et je suis le genre de bigger qui ne va pas faire juste battle de bigger. Je vais aller... de partout, vous fumez tous. donc, c'est vrai que je me trouve avec ce problème assez suivant, du coup. Mais j'essaie de faire passer le message le plus pédagogiquement pour l'expliquer à l'autre personne qui est en train de me faire sentir mal à l'aise, en fait, avec ses attitudes. Et d'ailleurs, des fois, c'est eux qui se sentent mal à l'aise avec mes attitudes parce que je me positionne. Donc, viens, passe le mur. Donc, c'est « Non, mais pourquoi t'es comme ça ?» Ah, pourquoi je suis comme ça? Bah, du coup, pourquoi tu ne te fais pas la question, toi? Donc, je pense que mon conseil ou mon avis, c'est vraiment se poser des questions. Je pense que la question la plus importante qu'on doit se poser aujourd'hui, c'est quoi le respect? Parce que je pense que le problème entre hommes et femmes, noirs et blancs, et tous les problèmes qui existent entre ces genres de différences-là, c'est qu'on n'a pas trop clair le concept de respect, de dire la personne qui est en face, homme, femme, enfant, animal, c'est une personne, donc je dois respecter. C'est pas, je ne peux pas rentrer dans la personne, en fait, je n'ai pas le droit. Tu vois, c'est comme si c'est un pays, tu ne peux pas aller à un autre pays faire désastre, parce que ce n'est pas ton pays, tu n'as pas le droit. C'est pareil pour les personnes. Donc, je pense que le conseil, celle que je peux donner depuis mon corps, à part toutes les choses qu'on peut mettre en place, bien sûr, partager le message, faire des postcards, etc., bah, parler entre nous, bah, je pense que c'est vraiment se poser la question de c'est quoi le respect et pour pouvoir avancer d'une façon positive tous ensemble, je pense. Et, parce que je pense qu'on est tous et toutes tests. des victimes de ce concept d'homme-femme, je pense que c'est compliqué pour tout le monde et parce qu'ils sont grandis, on est tous grandis avec, sous ce concept-là de savoir quoi dire être un homme, savoir quoi dire être une femme. Donc maintenant, on est en train d'essayer de codifier, donc c'est un peu comme ça, et un peu ça bouge vice-versa, ça bouge bouscule, merci. Et à tout le monde, donc je pense qu'on doit plutôt regarder à nos côtés, parler, partager. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser. Les garçons, je vous parle à vous directement. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à poser des questions vraiment, parce que c'est important, je pense, que dans le partage et dans cette relation personne à personne, avec le respect, on peut trouver des belles changements, des belles solutions.
Vous avez le sentiment quand même, on a le sentiment que la société évolue un peu sur ces questions homme-femme, etc. Mais que on a, moi, j'ai vraiment le sentiment que le sport reste un peu comme ça, derrière, que ça avance et que le sport est un peu à la traîne sur tous ces sujets-là.
Ça dépend des âges. Tu vois, par exemple, mon fils qui a bientôt 14 ans, pour lui, c'est normal que les filles jouent au foot. Il y a une équipe d'ailleurs féminine dans le club de foot où il était. En athlétisme, ils s'entraînent vraiment bien tous ensemble, en natation aussi. Donc, ça dépend quand même vraiment des âges. Je pense que finalement, ce qui est le plus dur à faire bouger, c'est un peu l'ancienne vague qui prend encore beaucoup de place. Donc, voilà, les gens qui vont avoir plutôt nos âges, enfin voilà, autour de la quarantaine, trentaine, cinquantaine. Je pense qu'il y a beaucoup à faire de ce côté-là. Donc, il faut continuer à bien éduquer nos enfants. et je pense que les profs de PS, mais aussi dans tous les clubs de sport, en fait, le message est passé, en tout cas dans l'éducation des enfants. Il y a vraiment cette recherche de mixité, de respect aussi de chaque individu, moins de comparaison. Mais par contre, voilà, pour toutes les plus anciennes générations, c'est encore un long combat.
Toi qui es engagée depuis un certain nombre d'années maintenant, tu sens quand même qu'il y a des évolutions, tu sens que le message est plus écouté.
Le message est plus entendu, en tout cas, on sent qu'il y a un écho. Alors que c'est vrai qu'au début, ça paraissait même fou de cette question de la place de la sportive dans l'espace public. On ne la comprenait pas, on ne comprenait pas son importance. On a l'impression que c'était un non-sujet, quoi. Et là, on voit quand même qu'il y a une prise en compte des institutions, des collectivités sur ce sujet-là. Après, il y a encore beaucoup de choses à faire et du terrain. Enfin, la dernière fois sur le City, juste pour vous dire, dans le 18e, on a dû arrêter la session parce que les garçons étaient trop énervés et jetaient des cailloux sur les filles. Donc, on a encore ce sujet-là. Le combat doit continuer, quoi.
Et pour clôturer ça, mais justement sur une belle note aussi, quels sont les messages que vous souhaiteriez passer aux femmes ? Alors le podcast est écouté à 85% par des femmes. Quel message vous souhaiteriez leur passer pour leur dire pratiquer justement le sport peut aussi être un moyen d'empowerment, on le disait. Voilà.
Moi vraiment, j'ai envie de leur dire de continuer et surtout d'oser faire du sport dehors parce qu'elles vont être vues par des hommes, oui, mais aussi par beaucoup de femmes qui, dans leur voiture, les transports en commun, le bus, vont voir, en fait, ah bah tiens, là, j'ai vu deux femmes qui couraient dans cette rue ou dans ce parc ou à cette heure-là. Ça veut dire que peut-être moi aussi, je peux le faire demain ou après-demain. Et en fait, il faut en effet normaliser le fait que les femmes fassent du sport dehors dans l'espace public. Par exemple, tu vois, moi, dans mes entraînements, dans mes coachings, je propose très souvent un mélange de course à pied et renforcement musculaire. Donc, c'est-à-dire que les nanas, elles vont courir et au bout de 2 km, elles vont faire des fentes et des squats. Et il y en a plein qui me disaient au début, ah, je me sens pas, je les ai pas fait du coup, j'ai pas bien fait l'entraînement. Et parce qu'en fait, elles ne se sentent pas de le faire parce qu'elles vont être vues, remarquées. Et en fait, quand on est une femme et qu'on fait du sport dans la rue, peu importe le sport qu'on fait, on est un modèle. On est déjà une super-héroïne, on est déjà modélisante pour toutes celles qui vont nous voir, en fait. Donc, il faut aussi le voir comme ça, comme un acte presque militant, d'aller faire du sport, que ce soit dans le petit parc à côté de chez vous, le lac, le tour de la forêt. En fait, vous êtes déjà modélisant et vous êtes déjà militante quand vous le faites.
Oui, je partage totalement ton point, Lucie. Je rajouterais aussi d'avoir de la sororité, que toutes celles justement qui se sentent capables de faire du sport puissent accompagner toutes celles qui ne s'en sentent pas encore capables. Et c'est comme ça qu'on va y arriver. Je pense qu'il faut vraiment développer cette sororité entre nous.
Je suis d'accord avec vous, bien sûr. Et du coup, pour moi, c'est l'appropriation de nos corps et de nos mentales. Donc, je vous dis à toutes les femmes qui écoutent ce podcast de vous regarder au miroir et de vous dire si je suis là, je peux en fait. Et de vous approprier de vos corps, de vos mentales, de ces éléments des autres qui sont aussi dans le même chemin et aller faire 3 petites squats ensemble, pourquoi pas?
Ou un peu plus, mais...
Ou un peu plus. Mais c'est vrai de s'approprier de soi-même et aller la peur, elle est imaginaire. Donc, jusqu'à ce qu'on arrête d'avoir la peur, c'est pour nous que ça existe, la peur. C'est nous qui on a peur, c'est vrai. Mais si, c'est un choix de dire j'y vais, parce que sinon, c'est quand que ça va changer.
Ouais, j'aimerais bien qu'on applaudisse, parce que je trouve ça très beau. Je voudrais savoir aussi, parmi les personnes présentes, s'il y avait certaines personnes qui avaient des questions, parce que je trouve ça toujours sympathique aussi de demander l'avis du public et des gens présents. Donc, est-ce que vous aussi, vous aviez envie de partager peut-être une histoire personnelle ou une question à nos invités ?
En même temps.
C'est toujours comme ça, hein, généralement.
Et moi, sinon, parce qu'il y a quand même pas mal d'hommes dans l'assemblée.
Oui, tout à fait.
Que j'apprécie. Ouais. Et voilà, s'il y en a un ou deux ou plusieurs qui veulent réagir sur ce qu'ils ont entendu, est-ce que c'est un sujet que vous connaissiez ? Est-ce que vous vous en rendez compte ?
Vous êtes conscient, en fait.
Est-ce que vous en parlez avec les autres ?
Messieurs, êtes-vous conscient de cette problématique ?
Moi, j'ai plein d'amis, eux, du coup, qui galèrent à aller à la salle de sport, etc. Et je sais qu'elles vont en salle de sport où il y a des créneaux, par exemple, où c'est à partir d'une certaine heure où elles peuvent y aller, elles sont toutes seules, il n'y a pas de mec. La course, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile pour elles par rapport au sport de salle, etc. Mais elles sont conscientes qu'elles ne peuvent pas pratiquer le sport comme nous, on peut le pratiquer. Et que si elles doivent le pratiquer, elles pratiquent en safe zone, donc c'est entre elles, sur des cours plus, on va dire, girly, comme le diraient les hommes, sur des legs, sur du pilates, sur des trucs où elles se retrouvent toutes entre elles, mais sur des sports un peu plus masculins, du upper body, etc., de la salle de la musculation, elles ont encore du mal à franchir le pas parce qu'elles se sentent regardées, se sentent jugées, etc. Et ça, elles me le disent à chaque fois, en tout cas.
Ouais. Merci pour ton témoignage. Est-ce que quelqu'un d'autre veut... partager son expérience également, une femme aussi peut-être, qui s'est reconnue dans dans les propos qui ont été dits aujourd'hui, peut-être quelqu'un qui prend conscience aussi maintenant que finalement, en fait, il faut y aller, finalement, il faut aussi montrer l'exemple et pouvoir se lancer. Super. Ah, si.
Pardon, ma français n'est pas le best. Est-ce que je peux vous poser la question en anglais, s'il y a quelqu'un qui peut traduire en français? Merci. What is the option that you guys can tell me to find the solution where a woman that wants to do a sport or art in areas they're not privileged, where they're around specifically guys, they're in a very troubled situation, meaning guys are doing not the right things. They're usually the kind of people that tend to have violence against women. Either in dance, either in sport, they usually guys carry more aggressive energy. So, for example, if a woman wants to go and run around their neighborhood, and in this way it's a Stalingrad, you cannot do that because it's not a safe place. But also, it's a woman that doesn't have the argent pour aller et prendre les salles de sport. Comme ça, elle a un place pour safe place. Mais c'est quoi les solutions pour ça?
C'est tout le travail que vous faites avec les collectivités.
Vous allez dans ces quartiers-là ?
Oui, nous, c'est comme tu disais, dans les principaux freins qu'on a vus sur la pratique sportive, il y a ces sujets de sécurité et aussi les sujets d'argent. C'est pour ça que nous, on est vraiment dans la rue parce que ça permet à toutes les femmes de pouvoir pratiquer quand elles veulent, ce qui répond aussi à la question de la charge mentale où tu peux y aller quand tu as le temps. Et c'est tout le travail qui est très long de vouloir créer ces safe zones, et ça, pour moi, on le fait collectivement, et c'est de la responsabilité des pouvoirs publics. Donc c'est tout le travail de plaidoyer qu'on fait nous auprès des collectivités pour faire émerger ce sujet, et après toutes les actions qu'on fait avec tous nos coachs de pouvoir créer ça dans les quartiers qu'on identifie où les femmes se sentent davantage menacées. Ce qu'on veut insuffler, nous, c'est ce qu'on appelle un cercle vertueux. C'est qu'à travers le sport est vraiment un moyen. C'est que plus de sportifs dans cet espace, c'est plus de femmes, et c'est comme ça aussi qu'on arrivera à créer ces safe places.
All good pour tout le monde. Super. Bah, je rappelle du coup quand même que la Sine Qua Non Run a lieu ce samedi à partir de 18h, une course de 6 km et une course de 10 km qui part de Pantin cette année. Voilà, donc n'hésitez pas, je vous conseille vivement d'aller suivre Sine Qua Non et si jamais d'ailleurs vous avez envie de partager un run ou n'hésitez pas à vous inscrire et à y participer. Voilà, avec peut-être Lucille.
Oui, j'y vais de temps en temps, parfois à Marseille, à La Rochelle.
Voilà. Oui, parce qu'on ne l'a pas dit, mais il n'y en a pas qu'à Paris, hein, y en a partout aussi. Oui. Donc ça, c'est super. Donc n'hésitez pas. Et merci à toutes les trois pour votre témoignage qui est précieux et qui fait avancer les choses aussi. Donc voilà, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à Championne du Monde sur les plateformes d'écoute et à nous laisser commentaires et étoiles sur Apple Podcasts. Et rejoignez-nous sur Instagram pour plus de news et infos sur le sport au féminin. À bientôt!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.